Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité, entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteur dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. C'est avec grande émotion qu'on vous présente aujourd'hui un épisode enregistré avec Isabelle Figliosa. Je dis grande émotion car les écrits d'Isabelle ont nourri les projets éducatifs de la famille depuis tant d'années, dont notre propre éducation. Durant cet épisode, nous avons parlé des croyances occidentales autour de l'éducation, comme les pleurs des enfants, les punitions, les récompenses, le sommeil, etc., qui ne sont que culture. Ce principe, on le retrouve dans le dernier ouvrage qu'Isabelle a préfacé, « Chasseurs, cueilleurs, parents » aux éditions Le Duc, qui nous plonge dans l'art d'élever des cultures ancestrales. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle.
Bonjour Stéphanie, bonjour Sylvie aussi.
Bonjour Isabelle.
Pouvoir vous interviewer au micro de notre podcast, ce projet Mère-Fille qui compte tant pour nous, est un grand honneur et surtout un grand aboutissement de ces heures de travail pour une nouvelle éducation. Alors pour ça déjà un grand merci. Je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter tellement j'ai reçu de demandes de nos auditeurs pour vous interviewer. Je vais donc être très brève.
Ça fait plaisir.
Psychothérapeute, psychothérapeute, écrivaine, conférencière, spécialiste des émotions, un emblème de la parentalité positive et de l'intelligence du cœur. Bref, une source d'inspiration constante en éducation en France et surtout de tous les projets éducatifs de ma mère, dont l'éducation que j'ai reçue. Et si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est pour parler d'un livre que j'ai dévoré et que vous avez préfacé, Chasseurs, cueilleurs, parents, aux éditions Le Duc. Avant que l'on parle de cet ouvrage, j'aime toujours savoir, même si ce n'est pas toujours forcément explicable, ce qui a motivé nos invités à se consacrer à l'éducation. Ma première question est donc, pourquoi vous êtes-vous passionné pour l'éducation ?
Eh bien, à vrai dire, je n'ai pas eu trop le choix, presque, puisque j'ai été conçue dans ce projet. Mes deux parents ont subi beaucoup de violences éducatives, et donc lorsque ils se sont mariés, ils ont décidé de faire des enfants, vraiment c'était leur objectif d'élever des enfants sans violence. Donc j'ai été élevée sans violence, je fais partie des rares personnes de ma génération à n'avoir pas subi de coups ni d'insultes, je n'ai jamais été punie, et enfin pas par mes parents en tout cas, et je n'ai jamais été culpabilisée, dévalorisée, etc. Donc j'ai bénéficié d'une parentalité positive depuis ma naissance. Et de plus, mes parents parlaient de la violence envers les enfants, parlaient de ce dont ils avaient souffert. Et comme ils étaient tous les deux psychologues et ma mère psychanalyste, ils me parlaient de ce qu'ils vivaient, de la souffrance des enfants à l'hôpital, de la souffrance des enfants, la souffrance des parents. Bref, j'ai été aussi élevée dans un bain d'émotions et d'empathie. On partageait sur ces sujets-là à la maison. Donc, bien sûr, moi, la question que j'avais dans mon cœur, c'était toujours quel est le sens de la vie ? Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Donc, je voulais comprendre. C'était mon objectif le plus important. Comprendre. Mais en même temps, c'est comprendre au service de la diminution de la violence sur cette terre. Donc, ça a toujours été mon axe hein, et j'ai fait mes études dans ce sens-là. Au début, je voulais être astrophysicienne pour comprendre la vie, puis ensuite, j'ai cherché à comprendre la vie plus au niveau biologique. Donc, c'est aussi pour ça que tout ce que j'apprends, c'est beaucoup lié et enraciné dans la science. J'adore la science, j'adore comprendre, et j'utilise ce que j'apprends et ce que je comprends dans les études scientifiques pour mieux comprendre notre quotidien.
Vous avez parlé tout à l'heure de parentalité positive. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer ce concept ?
Alors, la parentalité positive, en fait, c'est compliqué en France parce que on a choisi un mot qui est le mot parentalité, qui désigne le fait même d'être parent. Et du coup, un certain nombre de parents disent « mais ça va pas parce qu'on veut pas être des parents négatifs ou des parents positifs » et donc se rebellent contre ça. En anglais, ça s'appelle « positive parenting ». Et « parenting », c'est un participe passé, donc c'est en fait le parentage, en fait. C'est comment ce sont les pratiques de parentalité positive. Donc, ce n'est pas le parent qui est positif ou négatif, ce sont ses pratiques. Et la parentalité positive, c'est l'ensemble des pratiques qui aident le cerveau de l'enfant, le corps de l'enfant à se développer de la manière la plus harmonieuse possible et qui prend soin des besoins de l'enfant et ceux du parent. Donc, en fait, nous sommes tout un chacun dans la parentalité positive à chaque fois que nous posons un acte éducatif constructif qui permet à l'enfant de se développer ou qui nous permet, qui satisfait un besoin, soit du parent, soit de l'enfant. Et en général, quand les besoins, les vrais besoins, pas les besoins superficiels, hein, mais les vrais besoins de chacun sont satisfaits, eh bien tout le monde va mieux.
Comment on place l'intelligence du cœur dans cette parentalité positive ?
Alors, l'intelligence du cœur, en tant que telle, elle n'est pas scientifiquement validée, mais par contre, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence sociale, et pour moi, l'intelligence du cœur, c'est l'ensemble de ces deux intelligences qui sont finalement l'intelligence intrapersonnelle à l'intérieur de moi et l'intelligence de tout ce qui se passe à l'intérieur, de mes émotions, de mes ressentis, etc., tout mon vécu, mes pensées, etc., et puis l'intelligence sociale, l'intelligence relationnelle, l'intelligence interpersonnelle, donc l'intelligence de tout ce qui se passe entre les personnes. Donc, l'intelligence intra et interpersonnelle forme ensemble ce que j'ai appelé dans mon livre l'intelligence du cœur. Il n'y a pas d'études sur l'intelligence du cœur, mais il y a de nombreuses études sur l'intelligence émotionnelle et sur les compétences sociales et l'intelligence relationnelle. Donc, on sait à quel point nourrir ces deux intelligences aide vraiment, ça nous aide sur l'ensemble de notre vécu, ça rend plus heureux, mais aussi ça permet de mieux apprendre à l'école, ça permet de mieux se développer, on réussit mieux, toutes sortes de choses. Donc oui, ce sont deux intelligences absolument nécessaires et inscrites dans l'épanouissement. Donc de nombreuses études sur la parentalité positive mettent en avant l'importance, autant pour l'enfant que pour le parent, de développer son intelligence émotionnelle et son intelligence relationnelle.
On parlait tout à l'heure du QI avant l'enregistrement. Est-ce que vous pourriez me donner votre point de vue de cette intelligence émotionnelle par rapport au quotient intellectuel ?
Alors, le quotient intellectuel, c'est une évaluation. Souvent, on oublie que c'est une photo à un moment donné et que le QI n'est pas fixe, il n'est pas rigide. Là encore, c'est une intelligence qui se construit, qui s'élabore. Le QI mesure principalement la logique et le logico-mathématique et le verbal. Et donc, ça se cantonne à ces deux intelligences-là surtout, et les intelligences intrapersonnelles et interpersonnelles sont mises de côté. Ainsi d'ailleurs que l'intelligence spatiale, l'intelligence kinesthésique, voilà, toutes les autres intelligences que Ward Gardner, par exemple, dont il a montré l'existence. Donc, ça ne reflète pas la totalité d'une personne. Donc, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce quotient émotionnel qui peut maintenant être mesuré parce qu'il y a des tests qui, du coup, ont été élaborés quand on a commencé à reconnaître cette importance des émotions dans notre quotidien. Donc, ce quotient émotionnel, eh bien, il montre que plus le quotient émotionnel est élevé, plus le QI va aussi se développer. Parce que nous apprenons mieux, nous comprenons mieux, donc même sur le plan logique, nous sommes davantage capables de faire des liens entre les choses et d'apprendre lorsque nous sommes en paix, lorsque nous sommes en paix avec nos propres émotions, en paix avec notre ressenti. Quand on aime son prof, par exemple, eh bien, on apprend mieux. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, si je suis en sécurité avec la personne qui m'enseigne, je vais apprendre plus facilement toutes sortes de choses. Si je suis en insécurité, que j'ai la peur, eh bien la peur va m'empêcher de mémoriser. Donc, du coup, tout ça est vraiment important. Donc, plus je développe mon intelligence émotionnelle, plus mieux je vais apprendre à l'école ou ailleurs. D'ailleurs, on n'apprend pas que à l'école.
Alors justement, vous parlez de l'école et pour préparer cette interview, j'ai relu votre best-seller « L'intelligence du cœur » qui était publié en 97 et vous dites en introduction « 90% de notre quotidien est passé sous silence ». Ne serait-il pas aussi utile de recevoir quelques notions sur la conscience de soi et le décodage des émotions que de connaître les rois de France et 1515 ? J'adore cette citation.
Et oui, malheureusement, elle a été écrite là, il y a 20 ans et elle est...
Mais c'est ça.
Voilà, elle est... Alors, on ne peut pas quand même dire qu'elle est totalement d'actualité parce que quand même, aujourd'hui, ça a beaucoup progressé et de plus en plus de gens, de plus en plus d'enseignants ont conscience qu'il est nécessaire d'enseigner, de savoir nommer les émotions. Et ça fait partie maintenant du programme scolaire de la maternelle. Donc, dès la maternelle, les enfants sont censés apprendre les mots des émotions, sont censés apprendre à communiquer les uns avec les autres. Quand je dis censés, c'est que malheureusement, comme les enseignants ne sont pas souvent très formés à cette intelligence émotionnelle, ils ne savent pas forcément toujours comment faire. Mais il y a quand même de plus en plus d'outils, de plus en plus de livres, d'ouvrages qui permettent de s'appuyer pour pouvoir exposer toutes ces notions et les expérimenter.
Bien sûr. Et Sylvie, je te laisse témoigner là-dessus parce que je sais que l'intelligence du cœur t'a guidée pendant tous tes projets éducatifs qui ont été très nombreux. Peut-être que tu veux partager pourquoi c'est important pour toi que tous tes enseignants lisent ce livre et l'intègrent dans l'éducation qu'ils offrent tous les jours à leurs élèves.
Ah oui, justement, c'est ce que je voulais dire à Isabelle. Donc, c'est que moi, j'ai créé plusieurs écoles. Il y a des milliers d'élèves qui sont passés par nos écoles. On a, avec l'organisme de formation aussi, on forme des milliers de personnes chaque année, parmi lesquelles de beaucoup, beaucoup de professeurs d'école, et puis maintenant des professionnels de crèche. Et à tout le monde, je dis de lire le livre d'Isabelle Filiosa, L'intelligence du cœur, parce que pour moi, c'est la base de tout, en fait. Et je pense que tout le monde devrait lire ce livre et tout le monde devrait avoir cette approche des enfants en tenant compte de ce qui est écrit dans ce livre, parce que c'est fondamental. Et en fait, souvent, on parle plus d'apprendre à lire très tôt, apprendre les maths comme si, utiliser le matériel Montessori comme ça. Mais pour moi, tout ça n'a pas lieu d'être si on n'a pas travaillé sur l'intelligence du cœur. Justement, comme disait Isabelle, on voit tellement d'enfants qui n'aiment pas une matière ou une année parce qu'ils n'aiment pas leur prof. Et puis l'année d'après, le prof est différent et ils adorent la matière. Donc, en fait, c'est fondamental pour tout, pour leur bien-être, pour qu'ils deviennent des adultes heureux et pour construire ce monde de paix auquel on tient tous. Donc, vraiment, ce livre, pour moi, il a dicté tout ce que j'ai mis en place dans nos écoles, dans notre organisme de formation, parmi les crèches, dans les crèches aujourd'hui dont je m'occupe. Donc, vraiment, pour moi, c'est fondamental de lire et d'écouter Isabelle, en fait.
Merci, je suis très touchée et impressionnée. Mais c'est vrai, je l'ai écrit dans ce sens-là, c'est vraiment toutes les informations fondamentales que nous devrions tous avoir depuis, voilà, on devrait tous apprendre tout ça à l'école, c'est vraiment l'alphabétisation émotionnelle de base.
Et même en tant que parent, je veux dire, quand on devient parent, on ne connaît pas tout ça en fait, et c'est normal, et le lire, vous l'expliquez d'une façon, comme je vous disais tout à l'heure, très simple, très facile à comprendre. Et en devenant parent, on devrait lire ce livre, en fait.
Merci.
Ça devrait faire partie de notre formation de parents pour tous. Alors, si nous sommes ici, Isabelle, c'est quand même pour parler du nouvel ouvrage « Chasseurs, cueilleurs, parents » que j'ai terminé récemment et que j'ai adoré. Donc, pour en faire un résumé rapide, l'auteur fait face à de grandes difficultés et surtout des désillusions quant à l'éducation de sa fille Rosie. Elle décide d'aller vivre en totale immersion chez des communautés reculées ou peuples racines pour s'inspirer de leurs pratiques éducatives. Et là, elle y fait de grandes découvertes. Alors, bien entendu, je ne vais pas tout révéler, mais ce livre est absolument génial et vous l'avez préfacé.
Oui, parce que je l'ai trouvé génial aussi.
Bah, tant mieux. Et vous dites de cet ouvrage qu'il permet de réaliser que ce que nous prenons pour la nature n'est souvent que culture. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Et oui, c'est le souci, c'est quand quelque chose est tellement, tellement répandu dans notre culture, nous en venons à ne même plus le questionner et à nous dire, eh ben, c'est comme ça, c'est la nature. Quand on voit aujourd'hui, les gens pensent que, par exemple, la famille nucléaire, c'est-à-dire un papa, une maman et un ou deux enfants, que cette petite famille nucléaire, ils pensent que c'est la nature. Et donc, si on s'éloigne de ce modèle, eh bien, c'est pas naturel. Or, mais non, c'est vraiment extrêmement récent dans notre culture. 99,9% de notre histoire de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, nous avons vécu dans des groupes, en tribus, et à jamais, nous n'avons été isolés à ce point en juste un couple avec un ou deux enfants. Et donc, on ne mesure pas rien que ça, nous ne le mesurons pas. Et donc, il y a comme ça énormément de choses. On croit que c'est normal, par exemple, que eh bien, tous les enfants, tous les bébés pleurent, c'est normal, ça fait pas... Ben, c'est naturel. On pense que tous les bébés pleurent à 18h, c'est normal, c'est naturel. C'est de se battre avec son enfant pour partir à l'école, c'est naturel. Se battre pour le coucher le soir, c'est naturel. On pense que c'est naturel que les enfants veuillent toutes sortes de choses et ne fassent rien dans la maison. On pense que c'est naturel et qu'il faut se battre contre cette nature. Et donc, on a construit une société où on est sans arrêt en conflit avec nos enfants parce que on croit naturel des choses qui en réalité ne sont que culturelles. Si on se disait c'est culturel, on se dirait ah ben tiens, peut-être ils font différemment dans d'autres cultures et je peux peut-être m'inspirer pour être plus heureux d'une autre culture. Et c'est ce qu'a fait cette femme. Elle s'est dit mais c'est pas possible quand même. Comment je galère aujourd'hui, mais l'humanité n'aurait pas survécu si tout le monde faisait comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Comment faisaient les autres? Et c'est là qu'elle a découvert, ben oui, que c'est que culturel.
Mais comment arriver à se défaire de ces croyances?
Eh bien, justement, en écoutant ce qui se passe ailleurs. Quand on apprend que, eh bien, les autres ne fonctionnent pas comme nous, ben, ça nous aide un petit peu à relativiser. On s'est dit, ah ben, finalement, c'est peut-être pas universel. Ce que je crois être la nature est universel, ben, finalement, ben, ça fait que 200 ans qu'on fait ça en Europe. Ah ouais, est-ce que c'est vraiment utile? Et du coup, on peut remettre les choses en question. Alors, ce qui est intéressant, alors, les sciences peuvent nous aider pas mal sur le sujet, mais il y a un biais dans les sciences. Et ce qu'elles montrent très, très bien, il y a un biais d'occidentalisation, c'est-à-dire que 96% des études scientifiques ne sont menées que sur des populations européennes, d'ascendance européenne. Alors qu'on fait partie quand même, on représente que 12% de la population mondiale. Donc, il y a un souci là. Mais c'est vrai que du coup, la science, eh bien, elle va analyser des choses. Donc, par exemple, sur l'apprentissage du sommeil, elle va analyser des choses et mesurer des choses qui n'existent carrément tout simplement pas dans d'autres populations. Mais chez nous, ça existe. Et donc, il y a même un peu de science qui est là, qui montre, ah ben oui, ben, quand on fait l'apprentissage du sommeil de telle manière, ça marche mieux que de telle manière, etc. Mais on ne questionne même pas ce biais d'occidentalisation qui fait, mais au fait, pourquoi on fait un apprentissage du sommeil? Parce que rien que sur ce truc-là, ça date quand même que de 1850. C'est hyper récent, si on regarde. Avant 1850, avant les conseils d'un médecin qui a fait fleur, on ne sait pas pourquoi ça a eu tant de succès. Peut-être que c'est la première fois que quelqu'un donnait des conseils sur ce sujet. Bref, je ne sais pas exactement comment ça se fait que ça ait pris autant de succès. Mais voilà, cet homme a dit, il faut faire attention à ce que les enfants ne se disent pas qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent en pleurant, alors il faut les laisser pleurer dans leur berceau tout seuls et vous verrez, ils s'endormiront encore mieux. Et de ce moment-là, eh bien, les gens ont commencé à contrôler le sommeil de leur enfant, presque à chronométrer le sommeil. Et donc, jusque 1850, et depuis la nuit des temps, eh bien, on se couchait quand on avait sommeil, on se réveillait quand on n'avait plus sommeil, hein, quand on était suffisamment ressourcé.
Ce qui semble assez logique.
Et c'est ce que font encore nombre de populations, même en intégrant le fait d'aller à l'école et compagnie. Hein. Et ça, c'était une des premières choses que j'avais observées quand j'ai eu mes enfants. Parce que j'ai bataillé avec cette idée aussi du sommeil. Comme en France, en Europe, de manière générale en Occident, on a cette croyance que les enfants ne veulent pas aller se coucher et que c'est normal de batailler. Du coup, j'ai commencé à batailler. Et puis après, je me suis dit, mais au fait, pourquoi je bataille? Et donc, en fait, c'est à ça que la parentalité positive qu'ont exercé mes parents avec moi est utile, c'est qu'ils m'ont appris à réfléchir aux choses, ils m'ont appris à remettre en cause, ils m'ont appris à penser par moi-même. Et donc, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais ça là? Ça me rend pas heureuse et manifestement, ça rend pas heureux non plus mes bébés, mes enfants. Donc, il y a un souci là. Et j'ai commencé à regarder, mais comment ils font ailleurs? Et puis, on est allé aussi, mon mari avait de la famille en Argentine, et donc on est parti en Argentine, et là j'ai vu que les enfants se couchaient à 10h, 11h, des tout petits venaient au restaurant le soir, et c'était là jusqu'à 10, 11h. Comment c'est possible? Ils doivent se lever beaucoup plus tard. Ah non, ils vont aussi à l'école à Pont. C'est possible, ça? Et donc, j'ai commencé à m'ouvrir, à réfléchir et je me suis renseignée. Et donc, effectivement, l'heure du coucher est complètement culturelle. Globalement, en France, ça va être 20 heures, mais il y a des pays où c'est 18 heures, d'autres 19 heures, d'autres c'est 21 heures, 22 heures, 23 heures. Bref, il y a un peu de tout. Et puis, il y a le reste de la population mondiale qui est complètement... qui laisse beaucoup plus libres les enfants. Et en fait, on se couche quand on a sommeil et on va être à l'écoute du rythme naturel de l'enfant. Et donc, ces gens-là ne bataillent pas pour le coucher. En plus, il y a des... la science nous montre qu'il y a des rythmes différents selon les enfants, d'une part, et surtout qu'il y a des rythmes différents en fonction des âges. Et donc, un enfant de 2 ans voit la sécrétion de mélatonine bouger de 2 heures. Donc, un enfant petit qui se couchait à 19h, et ben là, ça va être 21h. Et parfois, on voit beaucoup de parents d'enfants de 2 ans et demi, 3 ans, qui disent « Oh, mais mon enfant ne veut pas dormir avant 11h. » c'est juste naturel à son âge. À 6 ans, paf, il dormira à 20h, pas de souci. Mais c'est l'âge où la mélatonine, et ça, nous n'avons que peu d'impact sur le moment de sécrétion de la mélatonine. C'est pareil avec les adolescents, là encore, la mélatonine se décale de 2 heures. Donc, c'est compliqué parce que il n'y a que un tiers de la population qui est du matin, un tiers qui est du soir, un tiers qui est, et le reste qui est un petit peu mitigé. Bref, il n'y a pas d'unification. Il n'y a pas tous les adultes, tous les enfants doivent dormir tant d'heures et de telle heure à telle heure. Donc, c'est notre souci. Nous, les Occidentaux, comme le montre et très très bien ce bouquin, on adore le contrôle. Et donc, on cherche à contrôler, mais on contrôle tout. On va jusqu'à chercher à contrôler des choses qui sont physiologiques, comme par exemple le sommeil, mais on contrôle aussi la nourriture, enfin on contrôle énormément de choses.
Bien sûr. Et est-ce que vous pensez à d'autres pratiques occidentales qui sont bizarres, c'est le terme utilisé par l'auteur, en termes d'éducation?
Oui, tout à fait. Alors, il y en a, en fait, il y en a énormément. Il y a l'idée déjà de séparer un enfant de ses parents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez, de très occidental, la chambre du bébé. Donc maintenant, quand même, le carnet de santé demande propose de vraiment faire dormir l'enfant dans la chambre des parents jusqu'à au moins ses 6 mois. Jusqu'à très récemment, il y avait cette croyance qu'il fallait absolument que l'enfant dorme séparément des parents. Et ça, c'est très étrange. Donc aucune science ne peut supporter ça, et depuis des millénaires, les bébés dormaient avec leurs parents. Donc, c'est vrai que c'est anachronique et étrange. Il y a tant de choses. En fait, tout ce qui ne marche pas, c'est toute cette façon de réguler autant, de vouloir contrôler autant, de parler sans arrêt, de dire sans arrêt, ah tu fais ceci, ah tu fais cela, vas-y. Et donc elle dénonce cette manière d'infantiliser l'enfant, c'est-à-dire de l'empêcher de grandir presque en nommant sans arrêt tout ce qu'il fait et en lui donnant des ordres en permanence. Et donc l'auteur de manière, c'est drôle quoi elle dit, mais moi je me suis enregistrée, j'ai posé mon téléphone, j'ai mis sur enregistreur et pendant 1 heure et j'ai mesuré mon temps de parole. Elle dit, mais j'ai halluciné de combien je parlais et finalement, je n'arrêtais pas. Elle ne se rendait pas compte avant, mais je n'arrêtais pas de couper la parole à ma fille, de l'empêcher de suivre son idée, de commenter le moindre geste, ce qui fait que finalement, au bout d'un moment, la petite fille finissait par ne plus oser faire les choses et puis surtout faisait des crises parce que au bout d'un moment, ça devient impossible quoi d'avoir autant de contrôle sur soi et de quelqu'un qui sans arrêt commente tous nos faits et gestes. Donc en voulant bien faire, finalement on devient contre-productif. Mais c'est aussi lié à cet isolement, parce que l'isolement des parents, parce que les deux parents sont seuls, ou parfois souvent même la maman est seule avec son enfant, ou le papa est seul avec son enfant, pendant des heures et des heures et des heures. Et donc comme on est isolé à la maison, dans un appartement avec l'enfant, on devient le seul copain de l'enfant. Et du coup, on croit qu'il faut sans arrêt faire des choses avec lui, bouger avec lui, faire des trucs, et on s'épuise. Et puis, ça épuise l'enfant aussi parce que lui, il a besoin d'une multitude de personnes autour de lui. Enfin, quand je dis multitude, j'exagère. Il a besoin de plusieurs personnes autour de lui et surtout de gens d'âge varié pour pouvoir développer toutes ses compétences, toutes ses capacités. On punit aussi. Ça, c'est aussi quelque chose de très surréaliste. Punir, on sait que ça ne marche pas. Alors, on le voit tous les jours, tous les parents le savent, et pourtant, on continue. Il y a aussi des parents qui récompensent, et même à l'école, on récompense. Je me souviens, à l'école, quand mon fils est revenu le premier jour de l'école primaire, il me dit... maman, tu sais pas quoi? La maîtresse, elle nous donnait un bonbon si on rangeait. Mais on range pour ranger, maman, pas pour un bonbon. Et je me suis dit, waouh, chapeau, à son âge, il sait déjà ça, il a déjà pigé ça. Mais c'est quand même hallucinant que cette enseignante se soit dit, l'enfant ne va pas ronger spontanément, donc il faut que je le récompense. Mais toutes les études montrent que plus on récompense un enfant pour une action, moins il va pratiquer cette action spontanément. Donc, ce sont vraiment toutes sortes d'habitudes inappropriées et que nous croyons naturelles, que nous ne questionnons même pas. En France, on crie beaucoup sur les enfants et on pense que c'est normal. Et donc, crier sur un gamin est tellement commun que même à l'école, un prof peut crier sur les enfants. C'est normal. Et donc là, par contre, même dans le reste de l'Europe, ils crient pas tellement. Même les sanguins, comme les Espagnols, les Italiens, sont scandalisés, effarés de voir comment nous crions sur les enfants. Mais on va pas culpabiliser chaque parent français parce que on crie pourquoi? On ne voit que ça tout autour de nous. On pense que c'est comme ça qu'on éduque les enfants. Donc c'est ça que j'ai adoré dans ce bouquin, c'est qu'il questionne nos habitudes et nous dit « mais non, c'est pas comme ça partout, ça peut être autrement, et puis c'est drôlement plus efficace et plus agréable quand on fait autrement ».
Oui. Et vous parliez tout à l'heure d'isolement et elle rappelle cette expression dans son livre « Il faut tout un village pour élever son enfant ». Mais comment faire pour ne pas être isolée aujourd'hui? Vous le rappeliez, pour les familles qui vivent dans des appartements, dans des villes, c'est de plus en plus compliqué d'avoir tout son village pour élever son enfant.
C'est ça. Et donc, pendant un temps, ce que je disais, c'est déjà, il y a davantage de gens autour de nous qu'on ne croit. Il y a toujours dans notre immeuble des personnes qui n'ont pas d'enfants ou même qui ont des enfants mais qui apprécient d'être en contact avec d'autres. On peut quand même faire des tribus de nouveau. Mais c'est aussi ce que j'ai voulu vraiment, ce sur quoi j'ai voulu insister au niveau de la commission des 1000 premiers jours. Lorsque j'ai été nommée par Emmanuel Macron au sein de cette commission, j'ai été nommée vice-présidente et c'était vraiment mon objectif premier, sortir les parents de l'isolement. Parce que le stress, l'épuisement dans lequel on rentre, on ne peut pas demander à un parent épuisé de ne pas être violent. C'est tout simplement pas possible. Il y a un moment où on craque et c'est naturel. Donc, il était absolument nécessaire que les pouvoirs publics se saisissent de cette cause et installent quelque chose pour permettre aux parents de se sentir moins isolés. Donc, c'est en cours. Pour l'instant, il y a déjà des visites à domicile, mais évidemment des visites à domicile, deux visites à domicile après la naissance par la sage-femme référente qui nous a suivis déjà depuis toute la grossesse. C'est déjà une chose qui est un peu aidante, mais évidemment, ça ne va pas suffire. Et donc, ce que nous avons proposé au sein de la commission, ce sont des groupes. Et ça existe déjà dans plusieurs pays. Et donc, l'idée, c'est dans nos pays occidentaux où on a perdu les tribus, on a perdu cette notion de village, eh bien, comment le restaurer? Donc, la proposition, c'est de proposer à chaque parent qui met au monde un enfant de se relier à un groupe qui se réunira 1h30 par semaine dans une maison des 1000 jours. Donc, la maison des 1000 jours, c'est un lieu spécifique, mais tous les services de la maison des 1000 jours ne sont pas forcément abrités dans ce lieu unique. C'est en fait un réseau. Mais il y a quand même un lieu où le groupe de 10 bébés et leurs parents se réunissent 1h30 par semaine. On partage un moment convivial, on peut partager des émotions. On sait combien une maman et même un papa a besoin de raconter l'accouchement 4, 5, 10 fois, et d'autant plus que ça s'est mal passé. Donc, tout un moment de partage, mais aussi, ce groupe serait animé par un facilitateur, une facilitatrice, qui apporte des connaissances et qui amène les sciences, tout ce qu'on commence à savoir sur le cerveau d'un nourrisson, les besoins d'un bébé, les besoins d'un parent, sur l'épuisement, sur l'allaitement, en fait tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc il l'amènerait petit à petit et en développant des compétences parentales auprès du bébé. Et donc comme les parents sont par petits groupes et avec d'autres, des enfants du même âge, du coup, on peut partager vraiment, on se sent étayé, soutenu. Et l'expérience menée, par exemple, en Australie, mais aussi dans d'autres pays, montre que en dehors, donc ça dure un an, hein, pendant un an, chaque parent a droit à accéder à ces groupes pendant 1h30 par semaine. Mais les parents ne se contentent évidemment pas comme ça se passe dans le quartier. Ils se croisent dans le quartier et ils se construisent des réseaux d'entraide et de soutien, de partage. On se sent comme coparents et donc on avance ensemble et l'expérience montre que ces groupes sont solides après. Et donc, les gens continuent de se retrouver, d'échanger et de se soutenir les uns les autres quand leurs enfants ont 4, 5, 10 ans, 15 ans. Et donc, c'est vraiment une des façons qui peut changer profondément le rapport à l'éducation.
Il y a une dernière chose dont j'aimerais parler par rapport à cet ouvrage. C'est chez les Mayas, elles découvrent la serviabilité et surtout la coopération particulièrement importante des enfants au sein de la famille.
Oui.
L'auteur dit notamment qu'il faut augmenter au maximum l'exposition des enfants au monde des adultes. Et moi, ce qui m'a notamment marqué, c'est que elle disait se rendre compte qu'en fait, ils avaient même quasiment pas de jouets, qu'ils en avaient peut-être même pas besoin. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
Alors, les jouets, c'est une chose, vraiment une question aussi à part entière. Presque tous les parents d'aujourd'hui se rendent compte qu'il y a trop de jouets dans la chambre. Là, il faut pas vraiment être Maya pour se dire il y a vraiment trop de jouets dans la chambre, c'est sûr. On achète énormément de jouets, ben là, voilà, l'industrie est là et nous tente. C'est vrai qu'il y a des jouets absolument tellement fabuleux, fantastiques, on se fait plaisir à nous parents aussi hein, pour les acheter. Donc déjà une stratégie, ça peut être de ranger 80% des jouets et de n'en laisser que quelques-uns dans l'espace. Mais ce qui est questionné surtout dans ce livre, c'est on a tendance en Occident à écarter les enfants de la vie des adultes. On les empêche de nous aider à faire la lessive, à faire la vaisselle, à faire les tâches ménagères en se disant ça va quand même aller nettement plus vite si je le fais toute seule. Et donc, on fait à leur place, même si c'est eux qui renversent leur verre, ça fait partie de mes conférences sans arrêt, c'est l'enfant qui renverse son verre. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous? Eh bien, au lieu de lui dire « il y a une éponge sur l'évier », d'une manière calme et comme ferait un Maya, on va lui dire, on va s'énerver, « Ah, oh, qu'est-ce qui m'a fichu un gamin pareil ?» On va aller jusqu'à l'évier, on va prendre l'éponge d'une manière agressive et puis on va éponger la table en disant « Oui, si tu crois que j'ai que ça à faire !» C'est-à-dire, on a tendance à faire à la place de l'enfant. Et puis, quelques années plus tard, eh bien, quand on l'aura bien exclu de toute action, eh bien, on va lui reprocher de ne pas nettoyer la table. Donc, c'est ça encore une des aberrations, c'est qu'on croit qu'on doit tout faire et que le rôle de l'enfant, il est de jouer et d'apprendre. Alors, c'est vrai que l'enfant, son travail, c'est le jeu. À travers le jeu, l'enfant va vivre toutes sortes de choses. Il apprend énormément, il se développe énormément, il se comprend lui-même énormément. Un enfant, il va chez le médecin, il se fait faire une piqûre, il rentre à la maison, il veut faire une piqûre à sa maman. C'est à travers ce jeu, il se guérit de ce qu'il a souffert, de ce qu'il a eu peur. Et donc là, il se met du bon côté de la seringue et hop, il inflige ce qu'il a subi. Donc, c'est naturel. Un enfant qui subit du harcèlement à l'école, il va rejouer le harcèlement avec ses petits personnages à l'intérieur de la maison. Donc, il n'est pas question de supprimer tous les jouets. L'objectif de ce livre n'est pas de dire « vivons comme les Mayas ». L'objectif de ce livre, il est « re-questionnons nos abus et voyons les proportions des choses ». Donc, les enfants, qu'ils aient des jouets, qu'ils aient des jeux, oui, bien sûr, c'est utile, c'est sympa et ça leur permet réellement de développer toutes sortes d'aptitudes. Mais n'oublions pas aussi de leur permettre de jouer dans la forêt avec des branches d'arbres, avec des cailloux, etc. Et insérons-les davantage dans notre monde. Ça, c'est un de mes combats depuis très longtemps. J'ai insisté aussi là-dessus dans la commission des 1000 premiers jours, où je disais, mais nous avons vraiment à réintroduire nos enfants dans notre monde professionnel. C'est-à-dire qu'il y en a assez d'être à ce point séparé entre mon monde au travail et mon monde de parents. Donc, il y a le monde des enfants et puis le monde des adultes. Non, stop. Nous sommes un monde, une société, et les enfants devraient pouvoir aller et venir davantage dans nos sphères professionnelles. Alors, on a vu avec le confinement combien ce pouvait être difficile pour les parents de travailler avec leurs enfants à côté. Et on a cru qu'il fallait reséparer. Mais en fait, non. La question, il est de comment faire. On a vraiment à développer de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences pour permettre à l'enfant eh bien, d'interagir avec mon monde d'adulte tout en étant lui-même. C'est-à-dire, il peut très bien dessiner sur le côté et me laisser travailler pendant une réunion sans me déranger, mais seulement à condition que je l'ai suffisamment autonomisé avant. Or, comme dans notre société, on n'a pas tendance à autonomiser, on a tendance à diriger, à dire tu vas faire telle et telle chose, tu fais tel et tel exercice, etc. C'est-à-dire qu'on rend l'enfant dépendant et ensuite on s'étonne qu'il ne puisse pas être autonome. Donc ça, c'est aussi un des grands, Sylvie ne me contredira pas, c'est aussi un grand apport de Maria Montessori, c'est vraiment d'avoir montré que l'enfant n'a pas tant besoin de jouer au sens où habituel qu'on donne à jeu, mais de sentir qu'il se développe, qu'il travaille, il aime apprendre, il aime structurer les choses. Et dans une école Montessori, un enfant très petit va couper avec un vrai couteau. On va pas l'exclure, au contraire, on va pas lui donner un faux couteau qui coupe rien du tout et l'humilier de cette manière. On va au contraire lui permettre d'apprendre à comprendre qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui ne l'est pas et comment on se sert des choses. Donc, c'est vraiment une manière différente d'accueillir l'enfant dans le monde des adultes. Et on a énormément de choses à faire progresser. C'est sûr que dans les cultures que cet auteur visite, Michel, elle s'appelle, Micheline, c'est dans ces cultures qu'elle rencontre, c'est plus facile d'intégrer, parce que c'est plus facile d'intégrer un enfant à la chasse, à la cueillette, etc., que de l'introduire dans un métier de, je dirais, dans une grande société où on manie des chiffres et des concepts, etc. Mais ça n'empêche que nous avons à trouver ça et à faire davantage de place. Et puis, ça permettrait aussi aux adultes de plus se sentir tiraillés entre leur rôle de salarié et leur rôle de parent.
C'est tellement vrai. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Isabelle pour votre générosité, votre temps que je sais si précieux et surtout pour toutes les belles choses que vous faites depuis tant d'années pour les enfants et les adultes.
Merci beaucoup Stéphanie, merci Sylvie.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.